BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, c'est BFM Patrimoine qui ouvre une nouvelle semaine. On vous accompagne 2 heures durant ce matin, comme chaque jour, pour vous guider dans le monde de vos placements. Et on commence par l'actualité éco avec Faiza Younzi.
BFM Business, l'info éco.
Une, ce chiffre, 413 milliards d'euros sur 7 ans, c'est un budget historique pour les armées qui est débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y aura 2 semaines de discussion pour confirmer le projet de loi de programmation militaire. Il permettrait d'atteindre l'objectif de l'OTAN, à savoir 2% du PIB pour les dépenses militaires. Après les syndicats, c'est au tour des patrons d'être reçus à Matignon. Le MEDEF et la CPME, aujourd'hui en fin d'après-midi, au menu la suite du quinquennat, l'économie du pays, l'emploi des seniors. Pour Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, il est temps pour les organisations patronales de dévoiler leurs propositions sur des dossiers comme la revalorisation des salaires. C'est ce qu'il a dit ce matin sur RMC. On l'écoute.
Le patronat qui, d'ailleurs, sur la question salariale, sur la question d'évolution du travail, n'est pas exempt d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, pour l'instant, ils sont un peu planqués pendant la période des retraites. Maintenant, il faut qu'ils sortent du bois. Ils proposent quoi sur les évolutions salariales? Ils proposent quoi sur la reconnaissance du travail, sur la négociation obligatoire de l'organisation du travail dans les entreprises, par exemple? Il va falloir qu'ils fassent un peu leur part de leur part d'effort.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Dans l'actualité internationale, le dossier brûlant de la dette aux États-Unis, Joe Biden et Kevin McCarthy doivent se rencontrer. Aujourd'hui, le président et le chef républicain doivent reprendre les négociations sur le relèvement du plafond de cette dette. Il reste 10 jours désormais pour tenter de trouver un accord et éviter le défaut de paiement des États-Unis. La France fait les yeux doux au constructeur chinois BYD. Selon les échos, le pays est sur les rangs pour accueillir l'usine européenne du numéro 2 mondial des véhicules électriques. BYD prospecte un site qui lui servirait de base pour partir à la conquête du continent. Ça devrait être l'un des plus gros investissements de ces prochaines années. La France est notamment en concurrence avec l'Espagne et l'Allemagne. Ryanair renoue avec les bénéfices. La compagnie irlandaise affiche un profit de 1,43 milliard d'euros pour son exercice annuel décalé à fin mars. Elle est portée par la forte reprise du trafic aérien. D'ailleurs, Ryanair a battu son record de nombre de passagers transportés avec plus de 168 millions de personnes qui vont embarquer à bord de ces avions. Et on termine avec cette question. Qui va reprendre la grande récré? Ce lundi, le tribunal de commerce de Paris va auditionner les candidats à la reprise. Après l'abandon de King Jouet, ils sont désormais 4. Mais plus que jamais, c'est Jouet Club qui fait figure de grand favori.
Merci beaucoup Faiza. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous tout de suite, direction la Bourse de Paris.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est Étienne Braque que l'on retrouve au siège d'Euronext pour lire cette première heure de cotation. Que nous disent les marchés ce matin, Étienne?
Eh bien, c'est un zéro pointé pour le CAC 40. On a une Bourse de Paris qui est parfaitement stable, légèrement sous les 7500 points. Pas si mal, hein. Vous allez en reparler, j'imagine, à 10h30, mais vous avez pas mal de dividendes qui ont été détachés aujourd'hui et ça a une impact d'une dizaine de points. Donc, si on enlève ces impacts, eh bien, on a un CAC 40 qui devrait être en hausse. Alors, il y a beaucoup d'attentisme, hein. Faiza en parlait par rapport à ce plafond de la dette, hein. C'est un petit peu le sujet du moment pour les marchés. Un sujet qui avait été acheté, hein, dans les séances de mercredi, jeudi, vendredi, et puis là un petit peu de prudence avec des négociations qui patinent, donc des investisseurs qui limitent les initiatives. Quand vous regardez les volumes, on est à 300 millions d'euros échangés dans le CAC 40, des investisseurs qui se positionnent sur des valeurs défensives. Vous voyez du Orange qui gagne 1,5% à 11,49€, le secteur du luxe, Hermès plus 1,5% à 2031€, ou encore Carrefour qui gagne 0,8%, idem pour Thalès qui retrouve les 140€, alors qu'à l'inverse, les valeurs cycliques ferment la marche avec notamment Saint-Gobain qui perd 0,5% ou encore Vivendi qui perd 0,8% à 9,42€. À noter que les matières premières sont en repli aujourd'hui. Un baril de Brent qui redescend sous les 75$. Quand vous regardez également le gaz, hein, le TTF en Europe qui redescend sous les 30€ du mégawattheure. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le DAX, hein, pour la Bourse de Francfort. Souvenez-vous qui a franchi un record vendredi dernier. On est sur des plus bas de 18 mois environ pour les cours du gaz. Donc ça, c'est une bonne bonne nouvelle pour l'inflation. Le tout à la veille des PMI, hein, avec les indices des directeurs d'achat qui seront publiés demain, que ce soit en zone euro, mais aussi aux États-Unis. Ça sera des indicateurs importants à scruter. Hein. Ils permettront de reprendre le pouls de l'économie. En attendant, vous avez un euro-dollar qui se tenait plutôt bien ces dernières semaines. Hein. Souvenez-vous, on était au-delà des 1,10. Bon, là, on redescend un petit peu aux alentours des 1,08. Et puis, du côté des taux, vous avez un 10 ans français qui gagne 5 points de base à 2,99, alors que du côté des États-Unis, vous avez un 10 ans américain qui perd 4 points de base à 3,65. À noter qu'on a des investisseurs qui reviennent sur certaines valeurs qui ont été chahutées ces dernières semaines, à l'image notamment de Solution 30 qui gagne 2,7% à 3,08 ou encore Ubisoft, c'est la plus forte hausse du SBF 120, plus 3,8% à 25,41 et puis à l'inverse, c'est toujours très compliqué pour Orpea qui perd plus de 7% ce matin et qui s'approche dangereusement des 2 euros à 2,19 et puis le secteur de l'aérien tiens qui est bien orienté avec notamment Air France qui gagne 2% à 1,69 ou encore ADP qui gagne 1,7% à 145 euros, dans le sillage de Ryanair qui gagne plus de 2,3% à Dublin après la publication de ses résultats et surtout des perspectives florissantes. On voit un vrai pricing power quand même des compagnies aériennes qui arrivent à augmenter d'une façon très forte leur prix et une demande qui a l'air là pour cet été. 16 euros pour ce titre Ryanair à Dublin et donc la Bourse de Paris qui est stable ce matin, moins 0,1% pour le CAC 40, très légèrement sous les 7500 points, 7482 points.
Merci beaucoup Étienne Brac qui nous accueillait ce matin depuis cette mezzanine de la salle de contrôle du CAC chez Euronext à la Défense. Le marché, ben, on reste connecté au monde action, on va explorer la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Romain Claes nous attend chez Tiepolo. Bonjour Romain.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous mettez Trigano à la une.
Absolument. Trigano, c'est le leader européen des véhicules de loisirs avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. Donc il est présent sur les camping-cars, mais également sur les vannes, les caravanes et les mobil-homes. Donc ça représente l'essentiel de son chiffre d'affaires, plus de 92%. C'est un groupe qui a toujours été très bien géré avec une situation financière solide. Donc le marché du camping-car, c'est un marché porteur où Trigano s'est développé à la fois par croissance organique et externe. Donc toujours avec une trésorerie excédentaire qui lui a permis de réaliser historiquement de nombreuses acquisitions, en particulier sur le segment du camping-car. Donc il dispose aujourd'hui du portefeuille de marques le plus large d'Europe. 26 marques à forte notoriété, très complémentaires et très compétitives, lui permettant aujourd'hui d'avoir plus d'un tiers de part de marché en Europe.
Alors vous parlez d'acquisition et dernièrement l'actualité a plutôt été très riche sur le sujet.
Effectivement, déjà avec l'acquisition de plusieurs réseaux de concessionnaires, Trigano dispose aujourd'hui du plus grand réseau de distribution de véhicules de loisirs en Europe. Donc c'est une intégration verticale qui lui permet de créer un maillage géographique, de maîtriser son métier de bout en bout et de prendre des parts de marché sur la distribution de ses véhicules. Deuxièmement, c'est l'annonce du projet d'acquisition de la division Mobilhome de Beneteau qui a plutôt été une surprise. C'est une activité qui génère 260 millions d'euros de chiffre d'affaires chez Beneteau. Donc ça viendrait renforcer celle de Trigano qui, à l'échelle du groupe, est une petite activité car elle représente 110 millions d'euros. Avec cette acquisition, Trigano deviendrait le leader européen des résidences mobiles. Donc c'est un marché dynamique. Il y a aujourd'hui un taux d'équipement important lié à la montée en gamme des campings en Europe, mais également un renouvellement du parc qui est vieillissant. Il y a donc de bonnes perspectives de croissance à venir. Évidemment, il y aura de belles synergies, en particulier sur les achats, la logistique et la production. Il faut savoir que c'est une activité très rentable pour Trigano, environ 14-15% de marge opérationnelle. On peut donc s'attendre à un levier opérationnel non négligeable à moyen terme.
Voilà donc pour le volet acquisition. Qu'est-ce qu'on peut dire des dernières publications du groupe, des perspectives ?
Trigano a publié la semaine dernière ses résultats semestriels. Donc le chiffre d'affaires est stable sur la période, hein, principalement en raison de problèmes d'approvisionnement en châssis qui ont perduré sur le premier trimestre. C'est un phénomène qu'on a constaté sur l'ensemble de l'exercice 2022, donc à cause de la crise des semi-conducteurs. Donc ça a entraîné des perturbations sur la production et sur les livraisons. Donc la situation s'améliore progressivement. Donc le groupe continue d'augmenter ses cadences de production. C'est ce qui lui a permis de réaliser 14% de croissance au deuxième trimestre sur les campings et donc de rattraper une partie du retard qui a été pris sur le premier trimestre. Donc la marge opérationnelle du premier semestre est ressortie en baisse comme attendu, mais sur des niveaux un peu supérieurs à ce qu'attendait le marché. Elle atteint 11,4% sur les véhicules de loisirs contre 12,1% l'année dernière. Mais si on retraite l'intégration des réseaux de distribution qui sont margés à 4-5%, cette marge elle est supérieure l'année dernière. Donc ce qui est donc une très bonne performance. Il y a eu des gains de productivité, une optimisation des achats, mais surtout un effet prix de 6%. Donc, pour rappel, le groupe a passé plus de 20% de hausse de prix depuis le Covid pour se couvrir du coût de l'inflation, sans pour autant faire fléchir la demande. Donc, au second semestre, Trigano devrait accélérer sa croissance avec un retour plus marqué des volumes en raison de l'amélioration des livraisons de châssis, en plus d'un effet prix embarqué. Donc, ça devrait lui permettre d'améliorer sa rentabilité sur l'année. Donc, à ce stade, son carnet de commandes reste toujours élevé. Les fréquentations des salons et points de vente sont soutenus. Et dans un contexte un peu plus compliqué pour les ménages, le groupe devrait lancer une nouvelle gamme de véhicules à des prix plus attractifs pour soutenir ses ventes 2024. Donc, dernier point sur la valorisation qui reste très attractive. On est à 6 fois les bits 2024. On est très clairement en dessous des niveaux historiques. C'est donc une bonne idée d'acheter cette valeur de qualité et très bien gérée.
Romain Claes, Tiepolo, qui nous éclairait sur Trigano. Et puis si on se réfère au consensus des analystes qui suivent la valeur, ils sont à l'achat et ils visent un objectif des cours moyen de 162,41 €. Merci Romain et très bonne journée chez Tiepolo. Le marché parisien, lui, est hésitant autour de son niveau de clôture de vendredi soir, moins 0,07, 7487 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Bruno Cavalier nous attend chez Oddo BHF. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors que la question du plafond de la dette américaine n'est toujours pas réglée, alors qu'on attend les minutes de la réserve fédérale, l'occasion sans doute ensemble de faire un point sur la politique et sur la politique monétaire des États-Unis, politique économique, politique monétaire. Voilà, comment on lit les choses? On commence par quoi? Par la politique politicienne, par les 88 milliards qui restent dans la poche de Joe Biden pour finir le mois?
Oui, je pense qu'il faut commencer par cette question du plafond de la dette, je l'avais dit. Bon, la date critique, c'est le 1er juin, on est le 22 mai, donc c'est pas beaucoup de temps pour s'entendre. Je crois que les négociations vont patiner durant le week-end, elles vont reprendre aujourd'hui. Il y a une dimension politicienne dans le sujet, hein. Je crois qu'aussi bien qu'en républicain que démocrate ont en tête, évidemment, les échéances électorales de l'année prochaine. Mais il n'y a pas que ça. Et je crois qu'on ne peut pas réduire simplement cette question du débat sur le plafond de la dette à l'idée, bon, c'est un chantage des républicains et en gros, l'administration Biden ne devrait pas céder. Quand on dit ça, on a souvent en tête, évidemment, le précédent de 2011. Barack Obama était alors président de la République aux États-Unis. Le Congrès était divisé et à cette occasion, les républicains avaient imposé, au final, pour avoir un accord, des limitations assez sévères sur les dépenses, en espérant que ça coûte politiquement à Obama, qui finalement a été réélu. Mais je crois qu'il faut rappeler que le contexte n'est pas du tout le même aujourd'hui. En 2011, le sujet, c'était le chômage. Le chômage était à 9%. On était quelques années après la crise financière. L'inflation, on n'en parlait pas. Les multiplicateurs fiscaux étaient très élevés et donc effectivement en passer par des limitations sur les dépenses a eu un grand coût économique et probablement a fait en sorte que la reprise, la sortie de la crise de 2008 a été beaucoup plus longue. Aujourd'hui, comme on sait, il n'y a pas de chômage.
Oui, la donne n'est plus du tout la même.
C'est pas du tout la même. Donc je pense qu'il faut quand même reconnaître un point au camp républicain. C'est qu'il y a un vrai sujet de finances publiques aux États-Unis. Donc, il faut rappeler que sur les 12 derniers mois, le déficit du budget fédéral est de 7% du PIB. Il a quasiment doublé en un an. Hein, évidemment, il y a eu beaucoup de dépenses pendant la crise, mais ça c'est terminé. Il y a ensuite eu le plan Biden. Donc il y a une vraie, je crois, rationalité économique à peut-être trouver un calibrage de la politique budgétaire qui soit moins expansionniste. Et du coup, ça aiderait peut-être la Fed. On va peut-être parler d'abord les plus importants aussi.
Voilà donc quelques idées à avoir. N'empêche que jouer avec cette histoire du plafond de la dette, je mets jouer bien évidemment avec des gros guillemets, mais on a tous en mémoire les propos un peu libres de Donald Trump sur CNN qui encourageait presque ses partisans à provoquer le défaut. Tout ça, c'est pas complètement anodin. Et j'imagine que dans le cercle fermé de la réserve fédérale, ça doit faire un petit peu hérisser les cheveux sur la tête.
Alors, M. Powell a bien rappelé lors de sa dernière conférence de presse que s'exprime pas sur la politique budgétaire, c'est pas son sujet, mais il est évident que l'incertitude qui serait créée en cas d'échec des négociations aurait un impact très fort sur l'économie, sur la condition économique et donc sur la politique monétaire. Je pense qu'il doit aussi regarder ce sujet-là de son point de vue, qui est aujourd'hui la lutte contre l'inflation. L'inflation aux États-Unis a de toute évidence une composante demande, et si la demande reste encore relativement solide, peut-être trop solide aux États-Unis, c'est parce que la politique budgétaire est trop expansionniste, trop large probablement. Donc avoir, comme je disais, avancer vers des choix budgétaires qui viendraient à réduire le déficit, ça pourrait aussi aider la tâche de la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation. Il va de soi que les motivations de M. McCarthy, je ne parle pas de l'ancien président qui, fort heureusement, aujourd'hui n'est pas dans la table de négociation, mais les motivations de M. McCarthy ne sont pas d'aider l'administration Biden ou la Fed à trouver le meilleur calibrage économique. Mais c'est peut-être le résultat qui résultera de tout ça, et pour le mieux, parce que si effectivement il y a moins de soutien budgétaire, eh bien la Fed sera plus confortée dans l'idée d'abord d'une pause, et puis plus tard, dans quelques mois, d'un assouplissement monétaire.
Voilà donc quelques idées qu'il fallait avoir en tête en regardant ces États-Unis qui sont au cœur de l'actualité conjoncturelle, avec ce débat autour de la dette et puis ces minutes de la Fed qui émailleront la semaine. Merci beaucoup Bruno. Bruno Cavalier, Oddo BHF, qui nous accompagnait comme chaque lundi matin pour lire les données conjoncturelles. Le marché parisien toujours très hésitant, petite baisse pour le moment, -0,11%, mais reste à proximité du niveau de clôture de vendredi soir.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Bonjour Romain Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin dans la vie IMO Emmanuel Provost. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour AFI ESCA Patrimoine. On ne cesse de regarder ce monde immobilier par
tous les bouts.
Et rien ne va. Chez vous non plus, ça ne va plus ou ça ne va toujours pas ou...
Je cache ma joie.
Oui.
Non, c'est... Je pense qu'on est tous liés par les mêmes paramètres. Donc l'assurance de prêt n'échappe pas à cette ambiance morose. Je ne sais pas s'il y a plus fort, mais en tout cas, morose suffira.
On va la garder morose pour le moment.
On va la garder morose.
Parce que si on en croit les classiques, ça va se détériorer. Donc, il nous faut garder un peu de vocabulaire.
Voilà, c'est ça. On n'a pas encore atteint le fond. Je ne sais pas. L'assurance de prêt est quand même très, très liée à l'immobilier. Donc, alors là, l'immobilier, je ne vais rien apprendre. Marie, hein, vous êtes la plus apte à savoir tout ça. Donc, l'immobilier, les contraintes, les taux d'usure, les taux qui remontent, les particuliers qui ont toujours des projets immobiliers, mais qui...
Oui, mais justement, j'ai envie de dire, Emmanuel, oui. C'est dans ces moments où, justement, on cherche toutes les économies possibles et inimaginables, oui. Que l'assurance de prêt peut avoir un rôle déterminant aujourd'hui.
Ça a un rôle déterminant aujourd'hui sur la renégociation. De l'assurance de prêt. Mais en ce qui concerne ce qu'on appelle, nous, la loi Lagarde, c'est-à-dire la délégation d'assurance
au moment de la souscription du prêt,
on a plein de paramètres qui viennent court-circuiter tout ça.
Ah oui, moins de crédit, moins d'assurance. Hein,
alors, moins de crédit, moins d'assurance. Bon, ça, c'est basique. D'accord. Deux, qu'est-ce qui se passe pour le peu de crédit? Ça, c'est intéressant. Bon, prenons les particuliers. Particuliers, en général, ils demandent à leur banque pour emprunter, etc. Et puis, ils voient qu'il y a des difficultés, et puis ils voient qu'il faut beaucoup d'apports, et puis ils voient plein de choses. Ils sont peut-être allés voir un courtier. Le courtier leur a monté le dossier passait pas, etc. Et puis, le banquier, qu'est-ce qu'il va dire? Le banquier, il va dire, vous me faites l'assurance de prêt chez moi. C'est la moindre des choses, et puis je vous accorde le prêt. En ce moment, c'est très important pour un particulier de se dire, ouf, j'ai un accord de prêt, je vais pouvoir habiter ma nouvelle maison, c'est chic, ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend l'assurance de prêt de sa banque. Tout naturellement, hein. Oui, bien. De façon très légitime. Et puis,
Et ça peut d'ailleurs être une stratégie pour obtenir son crédit.
Et bien voilà. Et bien voilà. En tout cas, certains paramètres montrent que c'est aussi un peu une stratégie pour obtenir son prêt. Et puis ensuite, vous avez la fameuse loi Lemoine, où vous pouvez renégocier à tout moment votre assurance de prêt. D'ailleurs, j'ai des chiffres assez intéressants là-dessus.
Bah, allez-y. Vous attendez quoi ?
Bah, qu'on lui pose la question, peut-être.
Non, ce que je voulais dire, c'est que vous avez aujourd'hui des chiffres intéressants sur la renégociation. 20% des prêts qui ont entre 0 et 6 mois renégocient leur assurance de prêt. C'est pas beaucoup, hein. Et en même temps, on l'a vu il y a 5 minutes, c'est un moyen d'obtenir son prêt. Donc ça veut dire que on pourrait se dire dans les 6 mois, chouette, je vais payer un petit peu plus cher au début, mais je vais pouvoir renégocier mon prêt après. Mon assurance de prêt. Voilà. Il y en a que 20%. De 6 mois à 5 ans, il y en a 60%.
C'est pas mal, ça.
Donc c'est là qu'est la majorité. La majorité. Donc 6 mois à 5 ans, on a plein de phénomènes. Hein. On a les gens qui viennent d'acheter, le temps qu'ils déménagent, le temps qu'ils s'installent. Bon, après, on revoit ça, ils font leur budget, ils se rendent compte qu'ils ont envie d'étendre un peu la construction de la maison, etc. Bref, donc il y a ça. Donc 60% entre 6 mois et 5 ans. Et puis les 20%, c'est après 5 ans. Alors là, on a un autre phénomène qui est intéressant. C'est qu'après 5 ans, les gens ont oublié. Ah ouais, en fait, ils ont oublié. Ils ont oublié qu'ils avaient une assurance de prêt, parce que c'est parti dans leur charge.
Oui.
Voilà, tous les mois, ils économisent. Vous savez, notre société est faite pour avoir mensualisé tout. Hein. On mensualise tout, les vacances.
Finalement, c'est assez transparent. C'est quelques dizaines d'euros par-ci.
Ouais. Ouais, et puis ils se disent, c'est dans mon budget, et puis ça fait 5 ans maintenant. Et donc, ils vont le garder. Mauvais réflexe. Si je peux me permettre, puisque l'assurance de prêt, après 5 ans, tout du moins les assurances de prêt bancaires qui ont plus de 5 ans aujourd'hui, sont les plus chères. Parce que les banquiers, depuis 4-5 ans, qu'on mène quand même un petit... Voilà, qu'on paraît dans les médias et autres, et qu'on parle de l'assurance de prêt...
Ils ont un peu travaillé et fait baisser leur propre tarif.
Ils ont un peu travaillé le sujet. Ils ont un petit peu travaillé le sujet. Voilà. Donc, ils ont proposé des assurances alternatives internes, etc. Donc, après 5 ans, il y a encore un gros travail à faire.
Alors, moi je vous écoute juste avant l'antenne. Je vous parlais d'un truc, Emmanuel. Visiblement, il y a des gens qui ont regardé les tarifs des assureurs alternatifs. Et on en avait beaucoup parlé au moment de la loi Lemoine. C'est-à-dire que l'avantage de l'ouverture à la concurrence, il y avait aussi cette histoire de la disparition du questionnaire de santé pour les crédits à moins de 200 000 euros. Et qui faisait que forcément, tous les assureurs, mais en particulier les assureurs alternatifs, allaient donc forcément prendre plus de risques en assurant. Et qu'on devait s'attendre à une augmentation des tarifs. Alors là, cette étude, elle donne des chiffres faramineux, mais est-ce que effectivement, quand même, les assureurs alternatifs affichent des tarifs beaucoup plus élevés depuis la loi Lemoine ?
Alors, on va dire que le phénomène qui s'est produit, c'est que les assureurs ont eu peur de cette loi Lemoine, enfin, tout du moins, du chapitre sur la suppression du questionnaire de santé. Pourquoi ? Parce que les risques qu'on n'avait pas avant, les risques qu'on tarifait, les risques qu'éventuellement on supprimait, qu'on excluait, etc., ces risques-là, les assureurs, à Fiesca on a fait partie, ont eu peur qu'on ouvre une fenêtre, on ouvre un petit Velux en se disant on va avoir des nouveaux risques et ça va aggraver la sinistralité et de ce fait, on va être obligé, malgré nous, d'augmenter les tarifs. Ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble des assureurs a préféré opérer une légère hausse.
Légère.
Alors, légère. On va quand même mesurer ça. Entre 20 et 25% en moyenne. Voilà. Entre 20 et 25% en moyenne, c'est plus une hausse due à l'angoisse de ce qui allait se passer. Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait un an de praticité de la loi Lemoine, mais on a des premiers chiffres qui rassure un peu les assureurs en disant il n'y a pas eu d'appel d'air, il n'y a pas eu d'exagération.
Avec une espèce d'arrivée de profil à risque.
Oui, Oui, c'est ça.
Il y a encore de l'intérêt, parce que moi, la question, c'est est-ce que finalement, si on ne se saisit pas tant que ça de notre capacité à prendre un assureur alternatif, est-ce que ce n'est pas aussi parce que les tarifs sont de moins en moins attractifs par rapport à notre assurance bancaire, en fait ?
Alors, nous, on a étudié ça en interne et on s'est rendu compte que c'était encore très, très intéressant de résilier son assurance bancaire pour prendre une assurance alternative. On gagne encore pas mal de sous aujourd'hui quand on est un particulier. On a fait une petite étude juste. Avant de venir, j'ai essayé de trouver l'âge et le capital moyen, un petit peu, un truc un peu médian, pour dire qu'on économise 50% par rapport à la banque. Et je crois, alors attendez, parce que je crois que c'est un couple de 37 ans qui a un prêt de 200 000 euros, 23 ans de durée initiale. Donc oui, c'était courant, hein, ouais. Voilà. Aujourd'hui, renégocie après 9 ans de prêt. Après 9 ans de prêt, le restant à payer en assurance auprès de la banque, c'était 14 000 euros. Après renégo, la moitié, 7 000 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que même cette hausse, alors certains l'appellent minime, d'autres, oui, bon, 20%, ok, d'accord, je veux bien. Même cette hausse n'a pas influé sur la renégociation et l'avantage de la loi Lemoine. Ouais. Ouais, absolument, oui.
Mais enfin. Aujourd'hui, à chaque fois que vous passez, on fait un petit état des lieux, etc. Vous avez des arguments qui sont sonnants, trébuchants, et puis pour autant, on n'a pas l'impression qu'il y a un raz-de-marée sur la renée. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on dise à nos auditeurs pour qu'ils ouvrent le tiroir, qu'ils sortent leur contrat de prêt avec leur assurance emprunteur d'origine, qu'elle soit une vraie groupe ou une simili-délégation avec une filiale de la banque, et gagne les 7000 balles qu'il pourrait gagner?
Oui, mais je pense que...
Ça doit vous désespérer de vous dire, mais on est là, comme vous dites, on vous accueille, vous, Magnolia, enfin bon, bref, tous, pour dire, et puis rien. Enfin, pas rien, mais pas grand-chose. Enfin, peut-être pas assez, peut-être pas autant que vous espériez.
Moi, je vais le prendre par l'autre bout de la lorgnette. C'est-à-dire, je pense que c'est déjà pas mal.
D'accord.
Et je pense que...
Oui, mais comment on fait? On est d'accord, mais ok, on est optimiste. Ok, Emmanuel, mais comment on fait pour convaincre les autres?
Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait les questions de date, il y avait les questions de courrier, il y avait les questions de contrepartie. Enfin, ouais, c'était une forêt vierge. Maintenant, ça paraît d'une simplicité mal nommée évangélique. Mais...
Alors, je fais une... Oui, mais non. Bon. C'est pas aussi simple que ça. Quand on est un particulier, qu'on veut résilier son assurance de prêt soi-même, c'est pas possible. Deux, on va aller voir son banquier parce qu'on ne connaît pas d'assureur. Alors lui, il ne va pas le faire, bien évidemment, impossible. On va aller voir un courtier. Lequel on va aller voir? C'est au courtier, effectivement, de faire les démarches. Ouais. C'est au professionnel de démarcher. Et je pense qu'à un moment donné, à force de se faire démarcher, ça marchera, ça fonctionnera. Mais enfin, je pense qu'il faut être optimiste.
De l'abnégation toujours. Ouais.
Il faut être optimiste. Il y a moins 40% en délégation extérieure, plus 60% en résiliation de contrat d'assurance. C'est déjà magique. C'est bien.
Emmanuel Provost et Afieska Patrimoine qui nous accompagnaient ce matin. Merci d'être passé nous voir. À demain, Marie.
À demain.
Pour la vie IMO, chaque matin dans la première demi-heure. Dans un instant, ce sont nos traders qui regardent le marché.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
10h30, c'est le rendez-vous avec l'analyse technique sur BFM Business. Deux traders se mettent à votre service. Mathieu Cerron et Andrea Twenny sont en duplex depuis Perceval et depuis Saxo. Merci à tous les deux d'être là ce matin. On commence avec vous, Andrea. Comment lisez-vous cette... vague hésitation ce matin, finalement, on reste quasiment collé au niveau de clôture de vendredi soir.
Oui, on a des marchés qui sont un peu apathiques. On avait eu l'espoir vendredi d'avoir une solution sur le niveau de la dette américaine, sur le plafond de la dette américaine. Mais pour autant, ce matin, il y a un petit peu de déception par rapport aux avancées qui n'ont pas vraiment eu lieu ce week-end. On n'a pas eu d'avancées concrètes ce week-end. Au contraire, on a des négociations qui sont toujours à choper entre les deux camps. On a des négociations qui sont difficiles. Alors même si on a une espèce de complaisance du marché, on y croit, ces négociations qui devraient aboutir, mais elles pourraient aboutir qu'en dernière minute. Donc du coup, on risque d'avoir avoir jusqu'à début juin un petit peu quand même ce stress d'avoir une aucune solution trouvée entre les démocrates et les républicains. Et donc du coup, pas de vote sur ce plafond de la dette. Donc il y a des négociations qui vont reprendre. Donc tout au long de la semaine, ça risque d'être un sujet en fil rouge qui devrait occuper l'attention des investisseurs. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est comme si voilà, ça cristallisait un petit peu les attentes. Et donc du coup, ça bloquait un petit peu la prise d'initiative sur les marchés. Et c'est pour ça que ce matin, il se passe pas grand-chose à vrai dire sur le CAC et même sur les indices européens d'une manière plus générale. Mais pour autant, quand même, ce qu'on note, c'est qu'on a un risque qui est présent, même si on estime que la probabilité d'avoir un blocage sur les négociations au-delà de début juin semble quand même compliqué. On a quand même ce risque qui est là et pour autant les marchés qui restent quand même sur des niveaux assez soutenus. On est au contact des 7500 points, on est aussi sur des niveaux sur le S&P par exemple, on est toujours pas très loin des 4200 points, donc on est quand même sur un momentum qui est certes très calme ce matin en raison d'un manque d'activité, mais on reste quand même sur un momentum positif où la semaine dernière on gagnait encore 1% sur le CAC, donc on reste quand même sur une dynamique positive avec un marché qui fait preuve quand même de complaisance malgré ce sujet de tension, ce stress quand même qui est présent sur les marchés. Alors il y a un autre sujet aussi, mais là qui a plus d'impact pour le coup sur les taux ou sur les devises, c'est la question de la probabilité d'une hausse des taux de la Fed. Et puis là, on a vu hein, la semaine dernière, on a eu un bond de 40% sur une hausse de probabilité, enfin sur la probabilité justement d'une hausse de taux au mois de juin de la part de la Fed. Et donc cette probabilité, elle est redescendue à 10% aujourd'hui. Et c'est vrai que cette volatilité, cette hésitation et cette indécision sur justement où se placer par rapport à la Fed et par rapport à cette pause hein, qui a été espérée et à moitié annoncée lors de la dernière réunion, elle a une incidence sur les taux. Donc il faudra aussi surveiller l'évolution des taux. On voit des taux américains, ils sont, je le disais, qui est autour des 3,65, qui pourraient aller tester les 3,75. Derrière, c'est le dernier niveau avant 3,90. Donc, on voit qu'il y a une tension sur les taux et on voit du coup aussi que ça a un impact sur les devises avec un dollar qui se renforce par rapport à l'euro, justement en raison de ces taux qui remontent. Donc là aussi, il faudra surveiller la situation. On a beaucoup de speakers de la Fed qui vont s'exprimer tout au long de la semaine. On aura les minutes de la dernière réunion du FOMC et puis on aura aussi en fin de semaine l'indice PCE. Donc du coup, là aussi, on peut avoir un petit changement de cap à ce niveau-là ou en tout cas, ça peut créer un petit peu de remous sur les marchés, un peu de volatilité. Pour le moment, ça reste très focalisé sur les taux et sur les devises, mais attention quand même à ce que ça ne transpire pas sur les indices et que ça commence à avoir aussi des incidences sur les indices qui restent pour le moment, eux, focalisés sur le plafond de la dette américaine, mais avec encore une fois beaucoup de complaisance parce qu'on reste sur des niveaux qui sont extrêmement soutenus et on n'a pas vraiment de risque immédiat sur le CAC. On est quand même loin des zones de risque et on voit quand même que malgré tout, malgré ce stress, malgré le fait que les négociations n'aient pas abouti pendant le week-end, on n'a pas vraiment de situation particulière hier ce matin sur le marché qui reste stable comme vous l'avez dit sur quasiment ces niveaux de clôture de vendredi.
Mathieu Cironne, comment voyez-vous les choses chez Perceval ?
Toujours à l'achat avec des marchés qui sont extrêmement calmes. Le volume 350 millions d'euros échangés à cette heure-ci, c'est faible. Normalement, on est plutôt autour des 500-600 millions. Donc, beaucoup de catalyseurs, mais en définitive, des marchés qui sont dans une phase d'attente en attendant le débouclement justement de toutes ces situations-là. Le futur CAC, et là je parle bien du futur, est sur ses plus hauts de fin avril, donc sur les niveaux du 21-24 avril à 7480. Derrière, on avait retracé d'environ 3,5%. Et je parle du futur parce que l'indice CAC 40, lui, est nettement en dessous, dans la mesure où, sur la période, une période d'un mois environ, il y a eu beaucoup de détachements de dividendes. Et d'ailleurs, ce matin, nous avons eu les dividendes d'Essilor, BNP, Arcelor, ce qui a un impact d'environ 23 points sur le CAC. Et donc, il y a un écart de 23 points entre l'indice CAC 40 et le futur. Nous, dans ces conditions-là, eh bien, on continue de travailler à l'achat sur des replis. Il y a un niveau proche sur 7435,40, un niveau un petit peu plus éloigné vers 7420, c'était le niveau qu'on proposait à l'achat ce matin. Ce niveau-là n'a pas été atteint. On pourrait considérer un petit warning intraday, on va dire, sous 7380 si on voulait le jouer d'une manière très agressive. Quand on regarde la volatilité implicite, donc déduite des primes d'options, elle baisse beaucoup. On est quand même sur des niveaux de volatilité assez bas, 11,7 précisément sur le CAC 40. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas non plus de complaisance sur ces marchés-là. C'est rarement une bonne chose parce qu'à la moindre petite étincelle, ça peut poser des problèmes. Donc 11,7 de volatilité, ça permet à ceux qui ressentiraient le besoin de se couvrir, d'acheter des primes pour pas cher, ceux qui voudraient spéculer sur les échéances à venir, d'acheter des options pour pas cher, que ce soit des calls pour jouer la hausse, des puts éventuellement pour jouer la baisse. Mais sinon, on a des marchés qui restent toujours toujours bien orientés, avec des flux qui vont toujours vers les grosses capitalisations, notamment les valeurs du luxe. On a Hermès qui est la deuxième plus forte hausse de l'indice ce matin et qui fait un nouveau plus haut historique. Donc Hermès, LVMH, c'est toujours très impressionnant. On a les bancaires qui sont pas mal depuis plusieurs jours. Et sur les actions, l'automobile se redresse. Stellantis a plutôt une bonne tête et on surveille le retournement sur Renault. Il y a une configuration graphique qui est plutôt intéressante. Nous, on l'a mis sur surveillance. Donc Renault à suivre. Sinon, les marchés restent toujours très bien orientés.
Merci à tous les deux. Mathieu Cerrone, Perceval Finance Conseil, et Andrea Tweni depuis Saxo Bank. On vous retrouve tout à l'heure, Andrea, à 11h30 pour suivre la séance du jour. Le CAC, moins 0,02, 7 490 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Stop au minima des branches professionnelles inférieures au SMIC. C'est l'appel de Laurent Berger, le leader de la CFDT, propose de conditionner les baisses de cotisations sociales au fait que les minima de branches sont au niveau du SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que vous avez 170 branches en France, et environ 150 ont aujourd'hui des grilles de rémunération, dont le minima de rémunération, qui est encore inscrit en dessous du niveau du salaire minimum. Alors, personne, à la fin du mois, nulle part, n'est payé en dessous du SMIC.
D'accord.
Et donc, je rappelle que les branches professionnelles, ce sont des organisations pilotées par les partenaires sociaux qui définissent les règles métier par métier, notamment les conventions collectives. Il y en a des quantités, hôtels, cafés, restaurants, industrie électrique, gazière, le recyclage, les parcs de loisirs, la métallurgie, la coiffure. Vous avez 170 branches. Eh bien, la majorité ont encore des minima sociaux inférieurs au SMIC. Et c'est le dernier combat de Laurent Berger avant de passer la main à la tête de la CFDT.
Pourquoi s'arc-bouter sur des minima sociaux inférieurs, certes, au SMIC, si, in fine, dans la vraie vie, personne n'est payé sous le SMIC?
Alors, en théorie, c'est un sujet qui ne concerne pas les entreprises, mais les branches qui sont au-dessus de ces entreprises. Et les entreprises adhérentes dépendent d'une branche qui édicte des règles métier par métier. Je dis ça parce qu'on pourrait imaginer qu'une entreprise décide qu'elle se désolidarise des minima de branche inscrits dans la branche pour dire, ben voilà, moi, je vais avoir une grille de rémunération correspondant comme base, je prends comme base non pas le minima de branche, mais le salaire minimum. Seulement après, on peut difficilement les rendre directement responsables du fait que les branches n'ont pas actualisé leur grille de rémunération. Parce que ça voudrait dire que dans ces cas-là, on irait baisser les baisses de cotisation ou supprimer les baisses de cotisation dont bénéficient les entreprises parce que leur branche professionnelle n'a pas actualisé sa grille de rémunération sur la hausse du salaire minimum. Et puis en plus, objectivement, depuis les années 90, ces baisses de cotisations sociales, notamment sur les bas salaires, sont vraiment entrées dans le paysage. Elles font partie du fonctionnement du système économique. Si vous décidez de les supprimer du jour au lendemain, vous avez des wagons de gens qui n'ont plus d'emploi du jour au lendemain. Donc c'est, en théorie, sur les branches que la responsabilité porte. Effectivement, on pourrait se dire, c'est pas la peine de s'exciter sur cette histoire, puisque de toute façon, personne ne sera payé en dessous du SMIC.
Hey.
Le problème, c'est quand vous avez une branche, prenons celle du caoutchouc, par exemple, elle a 11 échelles de rémunération inférieures au SMIC. Donc l'échelle la plus basse, l'échelle de départ, le minima de branche, lui, effectivement, il est inférieur au SMIC, mais la personne qui est au minima sera payée au SMIC. Mais ça veut dire que vous êtes échelon 2 ou 3 dans le caoutchouc, vous êtes payé au SMIC. Puisqu'il y a 11 échelons en dessous du SMIC. Vous êtes échelon 8, vous êtes payé au SMIC. Vous avez une super promotion. Ah, enfin, vous passez de l'échelon 8 à l'échelon 11. Vous êtes payé au SMIC. Parce que l'ensemble, finalement, des échelons de rémunération inférieurs au SMIC, dans la manière dont c'est inscrit dans la branche, font que tout le monde est comme ça totalement compressé. Donc, on avait déjà évoqué le phénomène de trappe à bas salaire avec le SMIC qui, lui, suit l'inflation, tandis que les autres salaires ne sont pas indexés. Eh bien, c'est un accélérateur encore de trappe à bas salaire. C'est un accélérateur de tassement des salaires que l'on observe aujourd'hui dans les branches. Et c'est là-dessus que Laurent Berger est parti en guerre. Mais d'accord, conditionner les aides, les baisses de cotisations, très bien. Mais ça veut dire qu'on pénalise l'entreprise, tandis qu'à la base, c'est quand même la branche qui n'a pas, on va dire...
Fait son boulot,
ouais. On peut le dire comme ça.
Ouais. Il y a une solution pour sortir de ça ?
La solution, elle existe déjà dans la loi. Normalement, elle donne 45 jours, la loi, aux branches pour s'aligner justement sur les hausses du SMIC. Alors, il y a une particularité en ce moment, c'est que le SMIC a considérablement augmenté et de manière très rapprochée. Parce que dès qu'on a 2 points d'inflation en plus depuis la précédente hausse, la loi oblige à rehausser le SMIC. Donc ça veut dire que c'est la course contre la montre pour s'adapter. Parce qu'on pourrait dire, dans ces cas-là, automatiquement, le minima de branche, il est automatiquement aligné sur le niveau du salaire minimum, et donc c'est même pas la peine de se voir, même pas la peine de négocier, c'est un système automatique de marge d'escalier. Oui, mais quand vous n'avez pas, vous avez le minima, mais vous avez 5, 6, 7, 8, 9 échelons qui sont en dessous du minima. ces échelons-là ne sont pas indexés. Donc ça veut dire que si vous voulez les faire progresser en même temps que progresse le minima de branche, il faut se retrouver autour de la table pour négocier l'évolution spécifique de ces échelons-là dans la branche qui ne dépendent pas du calcul de hausse du SMIC par rapport à l'inflation.
Donc ça reviendra à les indexer.
Ce serait effectivement, si on faisait un système comme ça, une sorte de retour d'indexation des salaires sur l'inflation. Alors, le gouvernement, voyant que ça ne marchait pas, les 45 jours, a sorti une loi à l'été 2022. Attention les branches, si vous ne faites pas le job, il y aura des sanctions. Mais la sanction, ça peut être par exemple, on va fusionner une branche non vertueuse avec une branche qui, elle, a correctement actualisé sa grille de rémunération par rapport au salaire minimum. Alors, amusez-vous pour aller fusionner la branche de la volaille avec la branche de la coiffure. Parce que ce n'est pas exactement le même métier. Et donc, marier les conventions collectives de métiers aussi différents, ça va tout simplement être impossible. Donc, oui, la solution logique, ce serait que ça suive automatiquement les hausses de SMIC, mais on a vu que c'est techniquement compliqué. Après, il y a autre chose qui peut entrer en ligne de compte. Tension de recrutement, difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Il y a un moment où une branche professionnelle, si elle veut rester attractive, eh ben, elle doit se rendre attractive. Et donc, le fait d'accélérer un peu l'actualisation des grilles de rémunération par rapport à la hausse du SMIC, c'est un élément d'attractivité qui peut permettre dans certaines situations de répondre à ces problèmes de pénurie de manœuvre que quasiment tous les secteurs rencontrent. Voilà le combat. Un peu technique, mais en fait, derrière, il y a un vrai sujet de fond qui, effectivement, est-ce que peu ou prou, sans le dire ou de manière indirecte, on se dirige ou pas vers un retour d'une indexation des salaires sur l'inflation ?
Nicolas Dose et la polémique du jour, le marché parisien qui pour le moment continue de se chercher, moins 0,05, on est à 7488 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
C'est une ligne de conduite qui guide de plus en plus d'investisseurs, ligne de conduite qui consiste à donner du sens à son épargne. Mais que recouvre précisément cette notion et comment éviter les pièges de ce qu'on appelle le greenwashing ? Des détails avec Benoît Lombard pour le groupe Laplace.
Ça résonne de plus
cette
en plus.
Volonté, hein.
Ça résonne. Quel sens ça donne à son
épargne ? Pas investir idiot, quoi.
Pas investir idiot, mais j'allais dire même historiquement. Hein, donc, de tout temps. Le sens de l'épargne. L'épargne, c'est quoi? Eh bien, c'est le sang de l'économie. C'est le circuit financier qui sert à arroser l'économie par rapport aux besoins. Mais de tout temps, hein, le monde piété a été créé par Louis XIII au XVIIe siècle, où là, déjà, le prêt sur gage permettait aux moins aisés de compatriotes de l'époque de trouver du financement. Mais aussi, le livret A. Hein, n'oublions pas, le livret A, il a servi à financer les guerres napoléoniennes, post-guerre napoléonienne. Et puis, il sert encore aujourd'hui 510 milliards dans le livret A et dans le Codevi. Le Codevi, donc, qui a été créé pour financer l'économie, qui est devenu le livret de développement durable. Et puis, en 2017, le livret de développement durable et solidaire. Solidarité. Donc, de tout temps, on essaye d'adresser l'épargne vers l'économie qui a du sens, les critères extra-financiers, les éléments qui...
C'est souvent, ça passe par des incitations fiscales quand même, on va pas se cacher.
Alors on va parler des incitations fiscales, mais avant de parler des incitations fiscales, l'Europe, elle a toujours la même problématique. À des instants, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait en Europe? On régule. Alors on a régulé. On a régulé en 2019 en créant des critères extra-financiers dans les fonds d'investissement avec une information pré-contractuelle qu'on doit avoir dans les fonds d'investissement. Dans les 10 600 fonds d'investissement qui sont à impact, ces critères extra-financiers font qu'on les classifie. En soi, en article 8, on est un peu vert. Article 9, alors on est très vert. Puis article 6, on est pas vert. Qu'est-ce qui intéresse le particulier? Alors il y a un deuxième règlement européen qui est arrivé en 2020 et qui s'applique là depuis le 1er janvier 2023 à tous. Eh bien, c'est d'essayer de jauger, de définir l'appétence aux critères extra-financiers. Vous savez, on a le scoring de risque. C'est quoi mon appétence au risque? Aujourd'hui, on a aussi quel est le sens que je veux donner dans les investissements que je fais. Donc, et ça, c'est des points qui sont fondamentaux et qui vont dans le sens d'une économie circulaire qui fonctionne, qui rentre dans le cadre des 17 engagements de l'ONU. Hein, vous savez, où il y a les 5 P. Hein, on doit investir pour le bonheur du peuple afin d'assurer sa prospérité. Le deuxième P. Et puis, pour protéger la planète, bien évidemment, parce que tout ça, ça va dans le sens de la protection de la planète, la promotion de la paix, hein, et puis investir évidemment dans des sociétés qui visent à remplir les objectifs de développement durable, les partenariats des entreprises pour le bien du peuple commun.
Bon. Mais voilà. Ça passe souvent par de la fiscalité quand même.
Alors oui, bien sûr, la fiscalité. Non,
mais
oui,
c'est bien de mettre les grands principes, mais pour drainer l'épargne,
on a titiller sur la fiscalité, j'adore ça.
À mettre une petite carotte.
Carotte fiscale, bien sûr. Là, on le sait, ça passe aussi indépendamment de l'économie verte par le fait d'aider son prochain. Et aider son prochain, ça peut être des dons. Hein. On rappelle que l'amendement Coluche, qui a été créé en 89, a augmenté, hein, dès l'instant où on aide des associations qui aident en faveur de personnes défavorisées. Avant, on avait 517 € de réduction maximale, maintenant c'est 1 000 €. 75% du montant investi dans la limite de 1 000 € permet d'avoir cette réduction. Puis on sait aussi que au delà on a 66% de réduction d'impôt dès l'instant où on donne à l'impôt sur revenu pour de réduction pour des associations caritatives, oui, des fondations. L'IFI aussi, et là on a jusqu'au 8 juin, hein, donc l'impôt revenu, si on donne aujourd'hui, ça aura un impact l'année prochaine en 2024. Mais l'IFI jusqu'au 8 juin, on peut encore donner à des fondations, attention, à des fondations, et on a droit à une réduction d'impôt de 75%. Et puis aussi, on a en fiscalité la transition énergétique, la fameuse pour les passoires thermiques. Donc, vous savez, on doit tous être en catégorie D. Eh bien là, on a doublé, hein, le gouvernement a doublé cette année jusqu'en 2025, eh bien, le déficit foncier imputable sur le revenu général. Vous savez, vous avez 100 de revenus, bah, si vous avez 200 d'investissements pour assurer la transition énergétique, on change la chaudière, on change les têtes, bref, eh bien, on peut imputer jusqu'à 21 400 € sur le revenu général.
Vous, ça, c'est important. Vous nous avez donné beaucoup de mots, beaucoup presque de labels, etc. Ce serait qu'il y a l'ESG,
j'ai pas parlé de SFDR.
Non, mais il y a tout ce qui est finance durable, tout ce qui est finance solidaire, tout ce qui est finance verte. Enfin, comment on voit un petit peu ces différentes choses, ces différents vocables?
On essaye, pour donner du sens, les conseillers, on essaye de mesurer ça auprès des particuliers. Puis on se rend compte qu'ils y sont sensibles. Mais pour peu, là encore, qu'on les éduque. Hein, l'éducation à la finance verte a sont des éléments importants. Mais pas que la finance verte. Il y a aussi le sens qu'on veut donner à son épargne pour financer les entreprises. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour aider son prochain, pour aider la planète, que d'investir dans des sociétés qui donnent du sens donc à leur activité sociétale et qui vise justement à la promotion de ce qui nous permet d'avoir un caractère vertueux pour l'ensemble de tous. Eh bien, l'entreprise, l'action, ça adresse de l'emploi. Ça génère des gains qui sont taxés et donc finance aussi l'économie. Et puis, ça donne des éléments extrêmement novateurs, pour peu que l'entreprise le soit, pour l'économie. Et là, du coup, on peut concilier les deux avec des investissements dans le private equity. On sait que le private equity, les investissements non cotés, aujourd'hui, ont la faveur d'un public. Mais on peut aussi investir dans des fonds philanthropiques, des venture philanthropies, qui existent aux États-Unis depuis les années 90, où là, une quote-part de ces investissements, eh bien, peut être adressée à des associations, à des fondations caritatives, et puis une part des gains peut être distribuée au profit de ces fondations. Il y a quelques fonds en France qui donnent ce sens-là et qui rentrent dans le cadre des 17 critères et des 5 P fameux, donc développés par l'ONU. Donc, on peut concilier l'investissement durable, l'investissement qui a du sens, avec des carottes fiscales, et le tout se réalisant dans le cadre d'une réglementation européenne dont on aurait pu se passer, hein, parce qu'on n'a pas besoin de l'Europe pour savoir où on doit investir.
Cela étant dit, il faut quand même qu'on en dise un mot de ce SFDR.
SFDR, c'est compliqué. Donc, on a des articles...
Vous avez 2 minutes 30 pour nous dire un peu ce que...
Les fonds très verts. Il y a deux catégories de fonds. Il y a les articles, les fonds d'article 8, donc sûr que ça vise à la promotion, puis l'article 9, là, il y a un engagement qui est fort de l'entreprise. Hein. Dans 10 600 fonds, hein, qui représentent, je rappelle que l'épargne des Français, c'est 5 600 milliards. L'épargne qui sont investis dans des fonds collectifs, des OPCVM, qui sont gérés par des sociétés de gestion, c'est à peu près 2 600 milliards. Mais seulement 3% de ces fonds sont article 9. Mais pire encore, on vient de les dégrader. On était à 3, quelque chose, maintenant on est en dessous de 3. Parce que quand on regarde, quand on creuse, quand on vérifie, qu'on ne soit pas dans le greenwashing, l'éco-blanchiment, vous savez, nous les conseillers, le patrimoine, on est en lien avec le blanchiment de capitaux. On doit lutter contre le blanchiment de capitaux. Je pense qu'on peut aussi lutter contre l'éco-blanchiment. Donc on a jusqu'où aller. Donc on voit qu'il y en a très très peu. Et puis les articles 8, ceux qui visent à contribuer modestement, les fonds légèrement verts, eh bien là, en réalité, ils ne sont à peu près la moitié de l'épargne qui sont investis dans ces fonds, soit à peu près 1 300 milliards. C'est déjà pas mal, hein. Donc, mais au final, quand on regarde tous les chiffres, il n'y a que 60 milliards d'euros qui sont investis dans des fonds qui, là, ont un engagement fort et durable pour la planète.
Ça veut dire qu'il faut changer un peu la donne? C'est-à-dire qu'il faut changer la règle?
Ça veut dire qu'il faut éduquer, ça veut dire qu'il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'une entité pétrolière, par exemple, qui travaille sur le carbone, mais qui investit énormément de capitaux pour essayer de décarboner notre planète, tandis qu'elle pollue aujourd'hui, est-ce qu'elle est verte? Est-ce qu'elle n'est pas verte? C'est une grande question. Je ne vais pas parler de grosses entités, mais vous voyez à peu près la société à laquelle je fais référence. Ça, c'est une question. Il faut peut-être voir aussi et mesurer l'impact des engagements qui sont pris en faveur de la planète avec la quote-part de résultats, de chiffre d'affaires qui sont adressés pour justement contribuer au bonheur et de tous et au fameux 5P de l'ONU.
Benoît Lombard et le groupe Laplace qui nous accompagnait il y a quelque temps sur ces questions de sens et d'éluder le greenwashing. Le marché parisien, tout de suite, on jette un œil sur le détail de la séance.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
On a ouvert dans le rouge et on est revenu hésiter autour du niveau de clôture d'hier soir, moins 0,05, 7488 points pour le CAC 40, tendance d'ailleurs assez similaire ailleurs en Europe, moins 0,04 pour l'Eurostoxx 50, Orange, Dassault et Hermès pour les plus fortes hausses, Saint-Gobain, Vivendi et Bouygues pour les plus fortes baisses, l'Eurodoll 1,0809.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Christian Fontaine et la rédaction du Revenu. Bonjour Christian.
Bonjour Cédric, bonjour
vous
à tous.
Vous poursuivez votre série sur la retraite, plus particulièrement sur l'épargne retraite et les décisions à prendre en fonction de sa tranche d'âge. Il y a 15 jours, c'était les trentenaires. La semaine dernière, c'était les cadras. Et aujourd'hui, ce sont les quinquas. Quelle décision peut-on prendre à 55 ans pour compléter sa pension, celle versée par les régimes obligatoires?
Alors, à 55 ans, le premier réflexe, c'est bien sûr de savoir combien vont vous verser les régimes obligatoires de retraite, la CNAF, bien sûr, et puis les régimes complémentaires. Alors ça, pour ça, il y a un site un peu magique, vous voyez, c'est presque aussi magique que ChatGPT. Ça s'appelle info-retraite.fr. Ça a été instauré non pas par la dernière, mais par l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière retraite, réforme des retraites, celle du 20 janvier 2014. Et sur ce site, vous avez une information fiable et gratuite du montant estimé de votre future pension. Alors bien sûr, en fonction de l'ancienne, dispositif, il n'empêche que peu ou prou, les ordres de grandeur vont rester identiques. Alors c'est... Il y a bien sûr des bugs, mais c'est très bien fait. C'est-à-dire en fonction de différents scénarios de fin de carrière, hein, plus ou moins optimistes, c'est vous qui choisissez. En fonction de l'âge auquel vous estimez que vous partirez à la retraite, vous aurez une estimation précise du montant de pension versé donc, par la CNAV et par les régimes complémentaires. Ça, je dirais que c'est la bonne nouvelle. Il faut s'informer, c'est relativement simple, tout le monde peut le faire, c'est gratuit et c'est fiable. La mauvaise nouvelle, c'est que la conclusion va faire mal, hein, que si vous êtes cadre ou profession libérale, vous riez et vous riez jaune, et vous avez raison, puisque vous allez vous rendre compte que la pension versée par les régimes obligatoires de retraite, peu ou prou, avant ou après la réforme Macron, ne dépassera pas quelques 50% pour les cadres et les indépendants de vos derniers salaires d'activité. Donc, une seule et unique solution, l'épargne. Et si vous avez 55 ans, le mot-clé, le placement magique, c'est le plan d'épargne retraite, PER. Retenez bien ces trois lettres.
Pourtant, je pensais un peu plus réservé ou prudent sur les produits à gomme fiscale.
Alors, vous avez raison, mais ce produit-là, il est clairement d'une autre trempe par rapport aux autres, aux placements retraite qui ont précédé, donc celui qui a été instauré par la loi Pacte de mai 2019. Surtout, vous avez la possibilité, en fait, de récupérer, en fait, votre argent. Ce type de placement retraite à gomme fiscale, historiquement, il y avait deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est avec une sortie en rente obligatoire. Vous savez, les Français n'aiment pas la rente et ils ont raison. Et là, avec ce placement, vous pouvez sortir en capital. Première évolution positive. Et la deuxième, évolution positive, c'est que ça concerne quand même un volant très important de cadres et d'indépendants. Mmh. Pas uniquement ceux qui sont taxés à 45%, 41%, dès 30%. Cela peut être intéressant à condition que vous anticipiez une baisse de votre fiscalité à la retraite. Donc, potentiellement beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs concernés donc, par ce placement. On peut ajouter dernièrement, c'est que c'est aussi un bon outil de prévoyance puisque en cas de décès, le conjoint survivant va hériter du capital mis de côté sans rattrapage fiscal, c'est-à-dire l'avantage fiscal qui a été consenti ne sera pas repris par l'administration.
Justement, dites-nous un petit peu ce qu'il y a dedans. Là. Quels sont les détails, les caractéristiques du produit?
Essayons un petit peu d'étudier ce placement en utilisant la grille d'analyse du revenu. Premier critère cher aux Français, c'est bien sûr la sécurité. Alors, Le PER, c'est comme l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale.
Ah, c'est
donc,
une cousine.
Le niveau de risque, ça dépend des fonds dans lesquels vous allez investir. Bon. Donc, il n'y a pas de garantie sur le capital, sauf si vous choisissez d'investir dans le fameux fonds en euros à capital garanti, mais qui peu ou prou aujourd'hui ne rapporte que 2%, c'est-à-dire sensiblement moins et net 4 points de moins que la hausse des prix. Donc, c'est bien sûr ce qu'il ne faut pas faire. Donc, l'absence de garantie sur le capital hors fonds en euros ne doit pas être un frein à la souscription de ce placement qui est un placement de long terme et notamment en suivant la stratégie du revenu, une allocation 80-20, 80% placement risqué et 20% placement plutôt 20% 80% de placement non risqué et 20% de placement risqué, ben vous allez vous constituer votre propre fonds garanti. Deuxième critère de ce placement, c'est la liquidité. Là, votre argent, il est bloqué jusqu'à la date de liquidation de la pension du titulaire dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Donc ça, c'est la loi. Donc ça signifie que vous ne pouvez pas récupérer votre argent jusqu'au jour où vous liquidez votre retraite issue des régimes obligatoires. Donc peu ou prou, là, vous allez pouvoir cotiser et alimenter votre placement un peu plus longtemps avec la réforme Macron des retraites. L'avantage, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la récupération ne s'effectue pas en rente, mais en capital, donc libéré en une fois ou de manière fractionnée. Donc là, c'est vrai que sur le plan de ce critère-là de la liquidité, le PER, le plan d'épargne retraite, c'est moins souple que l'assurance vie. Vous pouvez récupérer votre argent à tout moment. Ceci dit, pour un placement retraite que vous allez alimenter...
C'est quand même un placement retraite, quoi.
Voilà, vous allez l'alimenter, vous avez tout compris. Non pas pendant 1, 2, 3, mais peut-être pendant 10, 15 ans. Et bien dans ces cas-là, le fait de ne pas pouvoir toucher à votre épargne pour financer des dépenses plus ou moins futiles, on peut même peut-être considérer que cette contrainte est un avantage. Ça évite, je dirais, ça permet de ne pas toucher à ce capital.
Mais il y a de la performance en plus pour couronner le tout ou pas?
Bien sûr, il y a de la performance. La performance, ça dépend des fonds dans lesquels vous investissez au sein de cette enveloppe fiscale. Donc, peu ou prou, vous pouvez, si vous investissez largement sur les marchés financiers, obtenir une performance qui est équivalente à celle de la bourse sur longue période, 7 à 8% par an. Ce qui est très important par rapport à l'assurance vie, la différence par rapport à l'assurance vie, c'est que sans décision de votre part, il y a ce qu'on appelle une gestion pilotée équilibrée à horizon par défaut. Et là, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de Français qui privilégient les placements sans risque, même avec des durées d'investissement très longues. Et donc là, si vous ne prenez aucune décision, bah, votre argent sera investi sur les marchés financiers, géré par un professionnel. Et plus vous approchez de la date de votre retraite, bah, plus votre épargne sera sécurisée. Sachant bien sûr que le revenu, on milite plutôt pour une gestion libre que vous allez gérer vous-même. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez votre retraite à 62 ou 63 ou 64 ans, vous avez encore un horizon de vie pour les cadres de 25 ans. Et donc, à cet âge-là, il convient encore d'être présent sur les marchés financiers. Dernier critère, dernière caractéristique de ce placement, c'est bien sûr la fiscalité. On en parlait tout à l'heure. C'est un placement qui donne droit non pas à une réduction d'impôts, les montants de vos versements ne viennent pas en déduction du montant de vos impôts, mais le montant de vos versements vient en déduction de votre revenu imposable. Donc, l'avantage fiscal est égal au montant que vous versez multiplié par votre taux marginal d'imposition. Vous versez 10 000 euros, vous êtes taxé à 30%, ben vous payez 3 000 euros d'impôts en moins. Bien sûr, il y a un plafond, ça serait trop beau. Et donc, le plafond, c'est que vous pouvez déduire qu'une somme équivalent à 10% de vos revenus, moins les frais professionnels, moins l'abondement de l'employeur au père Coll et moins la valorisation de vos jours de CET transféré sur un percol, on le dit peu. Quant à la fiscalité à la sortie, l'avantage fiscal dont vous avez profité à l'entrée est repris à la sortie. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un différentiel de taux d'imposition entre la période travaillée et retraite. Voilà, un très bon placement, trois lettres magiques en complément de l'assurance-vie. Si vous avez 55 ans, ça permet à la fois de réduire vos impôts et de préparer vos vieux jours. C'est un produit, entre guillemets, de défiscalisation sur lequel le revenu est très positif.
Christian Fontaine, vous répondrez aux questions des auditeurs tout à l'heure?
Avec plaisir.
On se retrouve dans la dernière demi-heure. Dans un instant, un détour par les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.